Je crois que peut-être, je ne peux pas interpréter le silence que nous vivons là, mais je crois que ça nous incite vraiment à rentrer dans ce combat de la prière et de son combat d'être vraiment vigilant. Hein, vigilant. Il ne s'agit pas d'être, vous voyez, il nous faut demeurer doux et humbles, hein, mais je crois vraiment qu'il faut aussi ouvrir les yeux hein, sur le monde tel qu'il se présente aujourd'hui à nos jeunes, et que les grands archétypes que nous avons connus dans nos contes d'enfance, hein, où il fallait que le prince charmant aille péter la gueule au dragon pour rejoindre hein, la princesse endormie, hein, vous voyez, c'était les contes de nos enfants, eh bien les archétypes aujourd'hui ont été complètement, complètement inversés. Et il faut... Oui, oui. Mais c'est étonnant, hein, cette fascination, d'une certaine manière, pour les choses un peu horribles. Il y a tout aussi il y a des films d'horreur qui sont de plus en plus épouvantables. Moi, je ne peux pas regarder des trucs comme ça. C'est épouvantable. Mais il faut voir les jeunes ce qu'ils voient aujourd'hui. Hein. C'est très curieux hein, de voir aussi le festival du Hellfest. Alors, il faut faire très attention, parce que tous les groupes ne sont pas réellement, objectivement sataniques. Hein. Donc, Benoît Domer, avec qui nous sommes en relation, qui a écrit un livre sur ces questions-là, a particulièrement travaillé sur la question. Donc, il ne faut pas non plus dire tous les jeunes qui vont là-dedans sont des satanistes. Mais c'est quand même des portes d'entrée particulièrement pervers au monde de la magie. Grâce à Dieu, ils ne deviennent pas tous. Mais ça crée un climat. Oui. Trop abrupt et trop frontal, on risque le clash. Hein, donc, si on y va trop raide, ça, on ne va pas rentrer dans une perspective de relation et on va casser. Mais ça peut être intéressant, par exemple, de lui donner simplement les paroles en français. Déjà, c'est pas mal. C'est délicat, hein, c'est délicat. Mais je crois aussi, je crois profondément, que pour aborder les questions qui nous intéressent là, il faut que nous-mêmes soyons en état de grâce. Je crois que si nous ne sommes pas dans la grâce du bon Dieu, dans le sacrement de réconciliation que l'on va chercher fréquemment pour vraiment nous débarrasser hein, de demander au Seigneur de venir nous guérir hein, de tout notre péché, Je crois que si nous ne sommes pas en état de grâce, c'est déjà très important dans la relation d'être dans cet état-là, vraiment d'être soi-même, de prier abondamment. Le Père Dominique Ozet va nous en parler vraisemblablement dans nos prochaines conférences, l'importance de la prière, de la parole de Dieu, des sacrements, de la vie fraternelle aussi, pour se réconforter et se conforter les uns les autres. C'est un combat, c'est un combat. C'est un combat étonnant contre les forces obscures. Relisons, si vous voulez, Éphésiens au chapitre 6, et voit ce combat étonnant. Hein, qui... Je vais vous relire la fin d'Éphésiens, si vous voulez, parce que c'est voilà. Le combat de la foi. Pour finir, armez-vous de la force, de force dans le Seigneur, et de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Il est explicitement, aujourd'hui, parfois, dans certains courants, on ne sait plus s'il existe ou s'il n'existe pas. Je crois que la réalité de ce que vivent nos jeunes nous montre que cette réalité du monde de l'obscurité existe. Voilà. Revêtu, voilà. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Si nous n'adhérons pas à cette vision théologique du monde, je crois que nous n'avons pas les armes nécessaires pour rentrer dans ce combat. Saisissez-vous donc de l'arme mouve de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc. Il est question véritablement de rentrer dans ce combat armé, avec à la taille la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme pour chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin la cuirasse du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. En ce temps de Toussaint, nous avons particulièrement à penser à ce monde de l'invisible, de tous ces saints qui nous ont précédés et qui ont vécu ce juste et bon combat. Ils sont véritablement nos protecteurs dans le ciel. Voilà. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Et puis pour moi aussi, dit Paul, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Voilà le programme que nous propose, qui est d'une actualité absolument saisissante. Mais le danger le plus grand, il est à l'intérieur de l'Église, mais il est à l'intérieur de mon propre cœur, parce que là, c'est ma responsabilité. Ah ben oui. Ah oui.
Je peux porter un témoignage sur un exemple d'un accueil que j'ai vécu avec une famille qui un jour a téléphoné pour avoir de l'aide. Et lorsque je les ai reçus, ils ont témoigné de phénomènes paranormaux qui se produisaient dans la chambre à coucher du garçon de la famille. Un garçon d'une quinzaine d'années. Et bon, je me souviens plus exactement ce dont les parents parlaient, mais ça les effrayait un peu, quelque peu, quoi. Bien. Donc, j'ai commencé par recevoir les parents. Je leur ai posé toutes sortes de questions sur les contacts qu'ils avaient pu avoir avec l'occultisme. Enfin, j'ai un peu l'habitude de faire ce que j'appelle une anamnèse des pratiques occultes. Et ça n'a pas révélé grand-chose. Ils étaient bien allés voir un guérisseur une fois ou l'autre, mais enfin, ce n'était pas très conséquent. Donc je séchais un peu, j'étais un peu sur ma faim, et puis à un moment, je dis, mais votre fils, il n'écoute pas de la musique métal, etc. Bon, non. Et puis, alors, la maman dit au papa, enfin, t'as écouté toutes sortes de disques, là, ACDC, machin, truc. T'en as une vraie collection. Puis, souviens-toi, dans la chambre de le garçon, il y a un immense placard avec ACDC, le fameux groupe de musique rock, qui veut dire Antichrist, Death to Christ. Alors, on a fini par découvrir qu'au fond, à la cave, sous la chambre du gamin, il y avait effectivement tout l'entrepôt des CD que le papa, qui était un peu plus jeune que moi, avait écouté pendant toute sa vie, avait ramené à la maison, et que son fils continuait à écouter, et il y avait une sorte de culte rendu à ce groupe musical, qui est un groupe sataniste, par ailleurs, tout à fait labellisé comme tel. Il y avait un culte qui était rendu. Ils ont très bien compris eux-mêmes, je n'ai même pas eu besoin de leur demander, il fallait faire le ménage, c'est tout. Donc ils ont pris une brouette, ils ont tout emmené à la décharge, ils ont tout enlevé dans la... J'ai reçu ensuite les enfants, après, on a causé tout ça, on a fait une prière de libération, et bon, c'est étonnant, la petite sœur de 15 ans me dit « Ah ben mon ex, etc. » Bon, enfin, on est dans un autre monde, mais voilà, enfin, faut prendre les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent, et souvent... le fait d'avoir poussé trop loin dans le sens de la compromission avec l'idolâtrie et la magie ou le satanisme fait faire un retour vers la foi, c'est aujourd'hui un chemin réel pour un certain nombre de gens, quoi. Donc c'est ce contexte de ce qu'on a vu là. Enfin, chez les jeunes, c'est effectivement extrêmement répandu. Donc il faut savoir déceler quand il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils lisent, à quoi ils jouent.
Oui, c'est important de les accompagner aussi, hein, pour pouvoir en parler. Cet été, j'ai été avec mon fils qui a 15 ans, et il y avait 3 copains qui sont venus comme ça à la maison. Et puis, c'est pour peut-être un peu répondre à la question qui était posée, comment faire par rapport à ces jeunes. Je crois que si on leur propose un temps comme ça, hein, d'exposer, ils ne viendront pas. Vous voyez bien, les jeunes ne sont pas là ce soir. Voilà. Par contre, je crois vraiment profondément à cette inattendue de la relation. Et donc, mon fils, avec 3 autres copains, la soirée est partie sur Harry Potter. Et on a passé jusqu'à minuit, on a discuté de ces questions-là. Ils étaient passionnés, mais ça venait aussi de leur propre questionnement à eux. Si on leur donne un peu comme ce soir, hein, de manière extraite, enfin, vous voyez, de manière un peu, voilà, comme on le fait, ça ne marchera pas. Il faut partir de la réalité et de leur questionnement dans l'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de les accompagner. Même aller voir ce genre de truc, d'y aller avec eux, en tout cas, voilà. Et puis de décrypter. Moi, j'ai vu une partie des films qu'on a vu, notamment L'apprenti sorcier, Le dernier Templier, et après, on a fait une relecture de ce qui se passait, de cette initiation qui se passait. Dans Le dernier Templier, notamment, c'est un truc incroyable. Il y a un affrontement de l'homme avec le diable. Et l'homme arrive à par lui-même, à vaincre le diable. Mais là, on n'est absolument pas du tout dans une perspective chrétienne. Il n'y a que le Christ qui est vainqueur. Quand vous savez que même famille chrétienne a fait la promotion d'Harry Potter, a fait la promotion aussi de la trilogie de Pullman. Enfin, on est où là? Est-ce qu'ils lisent réellement? Et Mona Michael a eu toute une polémique avec un universitaire de la Cato de Toulouse, qui est un gars qui est docteur en métaphysique, donc qui a fait des études de métaphysique, et il a critiqué les ouvrages de Mona Michael, mais il n'a vu que la superficie du truc, il a vu que la face du haut de l'iceberg, vous voyez. Ce sont des universitaires dans les milieux cato qui n'ont absolument, mais absolument aucune, qui n'ont jamais lu un livre de Blavatsky ou d'Annie Besant ou de la littérature d'Eliphas Lévi, enfin, vous voyez toute cette littérature de l'occultisme. Donc ils n'ont pas les clés, ils ne peuvent pas savoir que derrière cette littérature-là, il y a un background, il y a vraiment une face cachée. Et voilà. Je crois vraiment que nous n'investissons pas suffisamment dans les facultés de théologie, dans les séminaires, sur ces questions-là. Mais vous savez, tous les grands théosophes et donc occultistes du 19e, je peux vous dire que les théologiens du 19e et des évêques s'en sont très largement occupés. Hein. Quand on regarde la littérature du 19e et du début du 20e, l'Église était très présente à l'endroit d'une parole très forte et une parole d'autorité par rapport à toutes ces questions-là. Je la trouve malheureusement assez peu aujourd'hui, à part dans un document qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle « Christ porteur d'eau vive » et qui est un document pontifical qui est référent sur la pensée du New Age. Là, les choses sont explicites. Mais depuis, nous n'avons eu aucun document sur ces questions-là. Non, c'est bon, c'est un truc. Non, là, là. Non, c'est simplement parce qu'on a vu le caducé avec le Dr House et puis les deux serpents, si vous voulez. C'est, non, mais autrement, j'ai pas. Et puis alors, je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. J'ai pas. Je sais pas. Ah ben, c'est une photo qui est une photo que l'on va pouvoir retrouver sur Internet quand on tape Dr House, si vous voulez. C'est tout simplement. Hein. En même temps, le caducé des médecins, c'est aussi deux serpents. Il y a Hermès qui n'est pas bien loin. Donc, bon, voilà. Et ben.
Sinon, vers le début du montage avec les notions de couleur, terre, air.
Ouais. On peut vraiment, objectivement, se poser la question. Pourquoi ? Pourquoi ? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était vétérinaire au niveau européen. Et c'était là, au moment où il y avait des problèmes sur le porc. Enfin, vous voyez, il y avait une crise au niveau du porc, le porc baissait. Alors c'est... Et il me dit, un textuel, il me dit, mais aujourd'hui, nul ne peut acheter ni vendre s'il ne va sur Internet. Et je me dis, mais attendez, c'est quand même... Mais c'est ça la réalité. Toutes les bourses au niveau mondial passent par Internet. Donc aujourd'hui, plus personne ne peut acheter ni vendre s'il n'est dans ce réseau d'Internet. Attendez, j'irai pas plus loin, hein. Ne me faites pas aller plus loin. Mais en tout cas, c'est la réalité.
Il faut demeurer assez vigilant sur la question tout de même du fondamentalisme. On sait très bien que 666 dans l'Apocalypse, c'est un chiffre obtenu par gématrie, c'est-à-dire par addition de la valeur symbolique de chacune des lettres de César Néron, qui était à l'époque donc l'empereur persécuteur des chrétiens en 95 quand Saint Jean écrit l'Apocalypse. Donc César, Néron, en lettres hébraïques, vous additionnez le chiffre des lettres, ça donne 666. Donc c'est une façon de désigner l'antéchrist de l'époque, si vous voulez, le persécuteur de l'époque. Quoi, hein. Mais il faut... Donc si vous dites que 3W c'est 666, c'est une façon aussi de nous dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu diabolique à travers ça, mais bon, il faut veiller à...
Il y a cependant l'interprétation tout à fait passionnante de Saint-Irénée, aussi, sur le 666, que l'on trouve dans Adversus, et c'est très intéressant, parce que le 6 correspond donc à la création. Dieu crée le monde en 6 jours. Et ça, c'est l'interprétation de Saint-Irénée lui-même. Donc, 6, c'est la création. Or, le monde est créé pour ce repos en Dieu, du 7. Hein. Si le monde reste dans le 6, dans la création, il se suffit de l'univers du créé, et donc de l'univers matériel. Donc, il ne peut plus aller dans le repos en Dieu. Or, s'il le fait deux fois, eh bien, il répète son opération, et 666 aussi dans la perspective des chiffres bibliques, eh bien, c'est quelque chose qui se répète à l'infini. Donc autant il y a décimales, voilà. Eh bien, vous voyez, dans le 666, c'est le serpent qui incite l'homme à uniquement être dans cette perspective de l'horizontalité du créé et qui en oublie de lever le regard et qui ne trouve plus son repos dans le Créateur. C'est la perspective de Saint-Irénée. Et là, je trouve qu'elle est aussi extrêmement profonde.
Et quand je parlais de fondamentalisme tout à l'heure, c'était par rapport à ce que, par exemple, les imageries des sectes comme les Témoins de Jéhovah peuvent nous présenter sur leur bande dessinée ou Et ce qu'on a vu ici, où on vous met un 666 sur la tête et sur la main, puisque dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils porteront le chiffre de la bête sur le front et sur la main. Mais ça veut dire qu'ils seront marqués au niveau de la pensée, à la tête, et au niveau de l'action. Voilà. C'est pas...
Oui, il ne faut pas...
Il ne faut pas s'amuser à...
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, la prochaine fois, on abordera des questions qui touchent l'institution aussi ecclésiale à travers un certain nombre de sessions qui peuvent se passer au niveau du psycho-spirituel. On dira quelques mots. Et puis, on sera aussi peut-être un peu plus, je dirais, plus optimiste en disant que nous avons une anthropologie chrétienne extrêmement fondée et qu'il est important et urgent de s'y reposer.